Radio Stuhl. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Radio Stuhl. Alors, notre chroniqueur vedette habituel, Conan, est en vacances, donc pour le coup, on a dû choisir la qualité, effectivement, pour remplacer cette absence, et pour aussi éviter de sombrer dans la mélancolie la plus totale après ce match nul de partout, Racing Sedan hier à la Méno. Donc je vais commencer par présenter les chroniqueurs de ce jour, avec un retour, Rachmaninov, voilà, qui... C'est bientôt la rentrée, c'est le Racing joue plutôt le rôle de mauvais élève, donc j'espère que ça va quand même.
Oui, ça va, j'espère ne pas avoir à lui taper sur les doigts trop souvent,
ouais.
Mais là c'est pas terrible. Donc
Là il y a pas mal de tapages de doigts qui vont se perdre.
Un bon coup de règle sur les doigts des défenseurs par exemple.
Par exemple,
on en parlera plus tard, je
pense. En l'occurrence on va en parler effectivement. Un retour également, Mediasoc, qui lui par contre est allé travailler pour des raisons vraiment vitales, quoi, professionnelles. Il est allé à Metz s'installer provisoirement, peut-être pour toujours, mais en tout cas il garde une âme de Strasbourgeois. Il est revenu tout spécialement pour la Méno hier soir, enfin, il était au stade et voilà, il nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Toi aussi, j'espère que ça va, que ça cogite pas trop.
Bonjour à tous, oui ça va. Bon, pour moi, le passage à Metz, c'était mon transfert de l'été, c'était pour des buts professionnels, donc je ne suis pas l'ami de Pascal Johansen, mais voilà, c'est plutôt vital, comme tu dis.
Ok, j'espère que ça va bien se passer pour toi de ce côté-là, et que tu viendras souvent quand même nous rendre visite du côté de la Méno. Et alors là, notre vedette du jour, elle a accepté très gentiment, il a fallu la supplier, mais elle est là, elle nous fait l'honneur d'être là, c'est Jess. Jess avec nous pour la première fois sur Radio Stuhl, la deuxième voix féminine de Radio Stuhl qu'on accueille. Donc, et voilà, Jess, pareil, j'espère que tu vas bien, tu as vu le match hier, le Racing c'est ta vie.
Ah ouais, tout à fait, bonjour, oui, donc je précise quand même que je suis là de force.
De force, carrément.
Il faut quand même le dire, je pense que les gens ont le droit de savoir, on m'a un peu forcé, tendu un piège, malgré tout je suis là.
Tu n'es pas venu de graisse et de force, c'est ça?
Exactement, on ne peut pas plus.
Ça commence bien.
Très bien.
Elle n'est pas venue de graisse ni de force, ni de graisse et de force, en tout cas.
Je suis là, voilà.
Elle est là, mais t'as quand même l'air d'être contente d'être là.
Donc bien sûr.
C'est vraiment l'essentiel. Après, peu importe les moyens qu'il a fallu employer pour te faire venir, tu es là, c'est le plus important.
Voilà.
Voilà, donc il n'y a pas de rebut tout parce que Gigas prépare déjà la fête du vin d'Elysheim. mais bon, on va quand même rentrer dans le vif du sujet sans transition. Donc le match d'hier, un match, moi personnellement, que j'ai trouvé relativement pathétique et mauvais, quoi. C'est un des plus mauvais matchs personnellement que j'ai pu voir au Racing. Pourtant, j'en ai vu beaucoup. C'est vrai que dans le jeu, il n'y a rien eu, quoi. Il y a une équipe de Sedan supérieure qui aurait pu remporter les 3 points sans sa maladresse devant le but. Il y a 2 buts du Racing un petit peu heureux, on a l'impression, hein, l'impression que ce match nul, c'est quelque chose qui a été arraché vraiment avec un soupçon de chance, peut-être d'orgueil, mais en tout cas, le contenu était très inquiétant. Donc, peut-être un premier tour de table sur le match d'hier, Racing Sedan. Bon. Il y a eu aussi du Racing, match d'avant c'était Ajaccio, qu'on n'a pas pu commenter à Radio Stuhl. Peut-être quand même se concentrer sur Sedan et oublier déjà le reste. En tout cas voilà, sur Sedan, peut-être Rachma.
Oui, déjà Ajaccio, vu que quasiment personne n'a vu le match, en effet on va pas en parler. Je crois qu'il y avait même pas une dizaine de Strasbourgeois qui ont vu le match. Donc pour hier, donc il y a 1 point, mais c'est vrai que la manière était assez inquiétante. Plus inquiétante que lors du dernier Strasbourg-Sedan, on s'était pris une rouste l'an dernier, mais où il y avait eu des buts d'extraterrestres côté sedanais, et je trouve que les Strasbourg n'avaient pas démérité.
Il y avait Pesté en défense centrale, voilà, qui avait complètement lâché sur
le soir. Mais je trouve que paradoxalement, les Strasbourgeois avaient été meilleurs, et là, hier soir, ça, on a frôlé la déroute, et de partout, on s'en sort assez bien, parce que Il y a ce pauvre Stéphane Cassard qui était complètement abandonné par toute la ligne défensive. Je mets aussi, je pense, les milieux défensifs dans le même panier, parce qu'on défend pas que à 4 en foot. Hein, voilà. Donc voilà, c'est inquiétant. Et Sedan était supérieur et méritait 3 points hier.
Ça vraiment, c'est clair et net. Mediasoc.
Bah, je pense que c'est un point de prix. C'était complètement impossible de gagner hier. Bon, il a suffi d'un rien que Moukaké mette un but à la 89e minute après avoir dribblé trois défenseurs. Il la met au-dessus, donc s'il avait marqué, c'était fini pour de bon. Un point de prix, toujours une sorte de petit miracle avec Gay, qui marque un but par match en compétition officielle, c'est assez incroyable. Sinon, je suis pas aussi négatif que ça en fait. Si je pars du principe que l'équipe de cette année est plus faible que l'année dernière, ce qui est visible de toute manière, je pense que c'est quand même il y a des bonnes choses quand même à retenir, pas dans l'intégralité du match, mais par période, et surtout mis à part la défense, voilà, qui est catastrophique. Je pense que les autres joueurs essayent de construire à certains moments, il y a des petites bribes de choses intéressantes. Il y a des joueurs qui ont eu tant de jeux qui n'auraient pas eu avec d'autres entraîneurs ou l'année dernière. Donc si on vise le milieu de tableau, je pense que c'est un bon point de prix. Voilà.
Si on vise le milieu de tableau.
Voilà.
D'accord.
C'est pas forcément le cas.
C'est important de le préciser. Alors donc on n'avait pas la version sévère avec Rachmaninov, la version un petit peu plus indulgente, plus positive avec Mediasoc. Toi, Jess, tu te situes comment?
Alors déjà, moi, j'aimerais dire merci Kassar, parce que quand même, pour son retour, il nous a sauvés. Parce que je pense qu'il nous a arrêté plein. On aurait pu faire une plus grosse rousse, à mon avis. Je veux aussi dire que le gardien de Sedan était pas mauvais, parce que en première mi-temps, il a fait deux super arrêts. Je pense qu'il a fait les arrêts de sa vie. La physionomie aurait quand même pu être un peu différente si on avait réussi à mettre ces deux occasions de but dans le but en début de match. Mais sinon, c'est vrai que la défense, pathétique, quoi. C'est pas l'idée.
On est tous d'accord là-dessus, ouais.
Donc, pauvre Kassar, parce que, ouais, comme il dit, il a bien été lâché, ouais.
Mais on a vu Stéphane Kassar piquer une gueulante, moi je l'ai jamais vu faire. C'est en fin de match. À un moment, je crois que c'est après le raté de Moukaké. Où là, il allait hurler sur. Alors je sais plus sur qui il allait gueuler, mais ça. Enfin, voilà, voir ce. Je dis, Stéphane, qu'est-ce que tu fous dans cette galère, quoi. Je me dis, j'ai eu pitié de lui hier soir.
C'est vrai qu'on le sent toujours aussi impliqué, toujours aussi motivé, et on a l'impression que, au contraire. Enfin, moi, c'est un des points sur lequel. Après, on va peut-être parler des joueurs plus précisément, mais d'un point de vue collectif et général, moi, je sens pas une équipe motivée, je sens pas une équipe hargneuse, je sens pas une équipe. Cohérente, je veux dire, dans les lignes, dans les connexions interjoueurs, quoi, entre les. J'ai l'impression que l'équipe s'entend pas bien, et c'est vrai que Kassar qui engueule Sikimic, hein.
Oui,
c'est ça.
Ça,
j'ai l'impression que au niveau de la défense centrale, il y a pas du tout une bonne entente, ne serait-ce qu'entre les défenseurs et le gardien, quoi. Donc là, il y a déjà un problème, je veux dire, d'ordre collectif, et quand on a, par les meilleurs joueurs de la division, hein, c'est pas le cas, mais s'il n'y a pas de collectif, il n'y a rien, quoi. Ça, c'est mon observation. Oui, mais il y a ce que tu.
En défense, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de concurrence non plus, quoi. Derrière les quatre joueurs qu'on a, il y a encore Abadi. Puis c'est à peu près tout. Donc les joueurs se donnent pas forcément au maximum et sont pas susceptibles d'être remplacés s'ils sont mauvais, quoi. Je sais pas, Pichou, Sikimic, c'est encore léger en ce moment. Donc s'il y avait eu des bons remplaçants, ils seraient même pas sur le terrain, quoi. Donc moi je me demande surtout si la communication passe, si Sikimic comprend bien le français ou s'il n'a pas des soucis de surdité à sa
place. Il a joué à Guingamp, donc
oui, a priori je pense qu'il parle assez bien français quand même.
Oui. Il ne doit pas bien entendre alors les consignes de Kassar derrière lui, mais.
Non, mais je pense que c'est injuste aussi de rejeter la faute sur Sikimic Pelé, donc ils sont à la rue, ça c'est clair. Mais je pense aussi qu'il y a un gros dysfonctionnement au niveau des milieux récupérateurs. Rodrigo, il est assez transparent depuis qu'il est revenu. Je pense que s'il y avait le Rodrigo d'il y a 2 ans, Pelé et Sikimic auraient beaucoup moins de boulot et donc on aurait beaucoup moins l'occasion de se ridiculiser.
Puis il y a l'absence de la cour aussi, voilà. Qui est revenu en cours de match, mais c'est quelqu'un aussi qui ratisse pas mal et qui fera peut-être du bien quand il reviendra, quoi.
Voilà, donc c'est en ça que je suis assez d'accord avec toi, Paolo, sur l'aspect collectif. Il y a des défaillances individuelles, mais aussi il y a je pense il y a tout le bloc équipe défensive qui est à la rue. Et ça doit. Et défendre, ça, c'est l'affaire de tous les joueurs en foot moderne, y compris de l'attaquant de pointe.
Donc ça c'est le football total que prenait Gilbert.
Merci.
tourner dans mon sens, Rachmaninov.
Je la sentais venir, celle-là, quand même. Ah bah...
Effectivement, ouais, c'était... Bon, après...
Non, mais j'ai lu sur le forum, là, sur le topic d'après-match, quelqu'un qui disait que Kitter... Alors, je sais plus qui c'est qui disait que Kitter avait un repli défensif insuffisant. Je suis assez d'accord. Des milieux offensifs, déjà, ont un sauveur milieu, un repli insuffisant. Du coup, les latéraux, ils sont à la rue. Et ça va être pareil pour les milieux de terrain axiaux. Du coup, c'est la charnière centrale qui se retrouve... qui se retrouve sur le grill tout le temps, donc voilà, il y a des dysfonctionnements à toutes les lignes, sans doute.
Juste un point sur Rodrigo, en fait, on pense qu'il n'est pas au niveau d'il y a 2 ans, mais il y avait surtout une période au début de l'année où il avait un placement juste devant la défense, quand il avait un placement différent quand même, dans une tactique différente, et là, il donnait vraiment du maximum quand le Racing fonctionnait bien aussi il y a 2 ans. Mais après, je trouve pas qu'il soit vraiment faible, il est peut-être mal placé, ou il n'est pas à cette place où il est bon d'habitude, quoi, où on l'a connu bon. Donc ça peut poser des problèmes dans l'organisation. Hein. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de milieu défensif hier, jusqu'à l'entrée de la cour. À certains moments, j'avais l'impression que la défense était assez basse, et finalement, les milieux, Rodrigo et Bas, ils étaient très 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 hauts, quoi, par rapport à la défense. Donc là, il y a des espaces qui se créent.
Alors, à contrario de ce que tu dis, enfin, plutôt pour amender dans ton sens, l'histoire de joueurs qui font pas le travail défensif alors qu'ils devraient le faire, un mec offensif plutôt comme Kitter, quoi. T'as un mec comme Pichot que tu vois très souvent attaqué, très souvent très loin de la ligne de but de Stéphane Cassard. Et on se dit peut-être que si le mec se concentrait d'abord sur son rôle défensif, on quitte peut-être à moins monter et... Ça irait peut-être mieux aussi. Donc là, je...
Ah, tu trouves qu'il a beaucoup attaqué?
Je trouve toujours très loin, très haut, oui, très haut. Et je me dis, bon, c'est un mec qui a quoi, 32, 33 ans, qui a peut-être pas la capacité physique comme ça, comme un Jean-Alain, de faire l'essuie-glace comme ça en permanence. Et bon, je me dis...
Le problème du Racing, on dit qu'il y a une défense merdique, une super attaque. Mais peut-être que si on a une défense aussi pourrie, c'est parce que justement, on a une bonne attaque. Peut-être que certains joueurs montent trop à l'abordage, et si on défendait plus, ben on marquerait peut-être un peu moins, mais on s'en prendrait moins. Donc c'est peut-être aussi que l'équipe joue, il y a des mecs qui montent trop à l'abordage, je sais pas.
Enfin, l'ensemble est bancal, de toute façon.
Voilà,
il y a quelque chose qui cloche, quoi. Par évidence, si on prend un peu les individualités maintenant, alors je sais pas, on va commencer par le positif, essayons d'être optimistes, essayons de trouver des petites satisfactions. Je sais pas quels sont les joueurs qui ont quand même assuré un minimum hier soir. Qu'est-ce que vous avez comme... Oui, Niliasok.
J'ai bien aimé Gay, hein. Pas seulement par les buts, mais aussi par sa façon de jouer, sa façon de d'essayer de chercher des petites passes avec les coéquipiers, de faire des petits enchaînements. Et puis j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre Kitter à gauche et Gay à droite. Ça fonctionnait apparemment hier, ça fonctionnait mieux dans ce sens-là que dans l'autre, quand Kitter était à droite et Gay à gauche. Alors voilà, Gay plutôt point positif Cassard. Voilà.
Ouais, bon, Cassard toujours, hein, encore et toujours. Ouais. J'allais dire presque dans ma question, hormis Cassard qui a nouveau été, qui sauve un but dès la troisième minute, qui effectue des arrêts au cours de tout le match. Donc c'est vrai que Cassard, je crois qu'encore une fois, le mettre un petit peu hors concours.
Il n'y a même pas débat en fait.
Il n'y a pas débat là-dessus. Donc là, toi tu cites Gay, Mediasoc, je pars Akma, tu...
Bah moi je... Ouais, bah à part Gay et Cassard... Bon quand même, il y a Pichot a fait 2-3 bons centres. Ça fait... Il faut quand même le souligner, c'est assez rare en Racing, hein, les centres potables. Il a mis un super ballon pour la tête de Lodi en... C'était, je sais plus, en... Il fait une tête, en fin de première, une tête qui frôle la lucarne. Le but, je crois, vient d'un centre de Pichot aussi.
Ouais, c'était la 45e minute, effectivement.
Donc, bon, voilà, si Pichot commence à avoir les centres qui sont ajustés, c'est pas plus mal. Mais bon, sinon, il n'y a pas de grosse satisfaction...
Donc tu restes dans un état d'esprit
ouais, je suis assez négatif.
Critique et négatif. Jess, toi
Je suis Cassard et Gay.
Cassard et Gay.
Ouais. Cassard, voilà. Enfin, surtout pour un retour, voilà. Mais autrement, pareil, je suis assez négative et voilà.
Ouais, le petit David Lely, t'as pas fait
Non.
Avoir de l'enthousiasme.
Non.
Bah, moi, Lady, c'est vrai que j'aurais quand même le souvenir peut-être, mais c'est quelqu'un qui peut-être hors de ce schéma justement où il n'y a pas de hargne et de combativité, c'est peut-être le seul qui parmi les joueurs de champ vraiment se défonce. Après, c'est vrai qu'au niveau des qualités, on se demande un petit peu parfois s'il a sa place. Bon, il marque ce but, mais qu'est-ce que vous pensez de David Lady? Est-ce que vous pensez qu'il peut apporter quelque chose, aussi bien d'un point de vue collectif, hein, finalement, avec sa hargne, parce qu'il court beaucoup, parce qu'il a l'air d'être motivé, mais et aussi de par ses qualités éventuelles d'un point de vue footballistique, quoi.
Bah, lui dit, le souci, c'est qu'il est très très seul, en fait, devant, hier, en tout cas. Donc, je sais pas, peut-être Fauvert manquer à ce moment-là, pour l'aider en attaque, quoi. Mais visiblement, il était tout seul, il essaie de presser un peu. Voilà, il a été là au bon moment pour marquer ce but. Voilà, mais il est seul, quoi.
Il est seul, ouais. Seul.
Même Marcos, seul. Dans les points négatifs, je sais pas si on...
Ouais, Marcos, une ombre, enfin, par rapport à la saison dernière, c'est un fantôme, ouais. C'est un fantôme, le pauvre Marcos.
La deuxième partie de saison, il était déjà un peu comme ça, quoi. Il est pas vraiment en attaque, il défend pas vraiment.
Ouais, moi, j'avais bien aimé, là, contre Arles, j'avais trouvé assez convaincant, mais là, hier soir, je l'ai même pas vu, ouais, invisible. Automatique.
Ouais, ça c'est aussi un symbole, parce que c'est un mec qui avait re-signé pour 3 ans, voilà. Quoi, qui avait le projet de s'inscrire quand même dans le Racing, et qui là, on se demande limite comment, enfin pas comment s'en débarrasser, mais comment faire en sorte de alors soit qu'il retrouve ses qualités, soit de l'écarter gentiment, quoi.
Mais je comprends pas trop, en fait, hier, pour reparler de Ledi, il s'est bien battu aussi, parce que quand Cassard dégage ou que la défense dégage, c'est sur lui que ça tombait, quoi. Généralement, c'était Ledi, je sais pas, il fait peut-être 1m75, quelque chose comme ça.
Non, mais il court beaucoup, il est toujours là pour...
Oui, il est même...
Il est attiré par la balle, et c'est...
Mais c'est vrai que ces longs ballons, on aurait préféré qu'ils tombent sur Marcos.
Voilà.
Ouais.
C'est vrai qu'en effet, le nombre de ballons qui ont été envoyés sur Ledi, en aérien... On a l'impression que ses coéquipiers croyaient jouer avec Marc Viduka ou Tony Cascarino. Non, c'est Ledi qui... je sais pas comment il fait, tu dis qu'il fait 75, je pense qu'il fait même moins.
Ouais.
Et après, bon, pour répondre sur Ledi, moi j'y crois pas trop. Hein. Pour moi, c'est un Rudy Carlier de plus. C'est un gamero du pauvre. Non, mais bref, j'espère qu'il me fera mentir. Mais voilà, ça, il court bien. Mais voilà, ça, je pense que ça manque d'épaisseur.
Ça manque d'épaisseur, ouais.
Je pense que Fauvergue, c'est quand même un cran dessus.
Ben, en tout cas,
on a que ça aujourd'hui à faire jouer, donc ben, on le fait jouer, mais c'est comme Carrier l'an dernier, il a joué, on n'avait personne, puis dès que Traoré est revenu en forme, dès qu'on a eu d'autres solutions offensives, salut, quoi. Donc, je pense que ça sera pareil.
Le temps peut-être que cette équipe, si on est optimiste, prenne ses marques, et peut-être dans ces cas-là, après, les meilleurs, quand même, des meilleurs que lui seront sur la pelouse, enfin...
Voilà.
C'est pas trop, mais bon, on va peut-être clore la page Strasbourg-Sedan. On n'est pas mécontent de clore.
Il n'y a pas d'autres points négatifs.
Il y a toujours, entre beaucoup avec le Racing, donc je pense que justement pour parler, pour broyer vraiment tout en noir, on va peut-être parler de l'avenir, parce que alors l'avenir, bon, peut-être un petit débat sur le Racing dans cette D2 là. Dans ce championnat, a priori quand même difficile pour lui cette année, avec 5 matchs, 0 victoire, 3 points, c'est quand même pas très bon. On se demande tous, et je vous pose la question, est-ce que le Racing peut exister dans ce championnat? Est-ce que le Racing peut remonter? Est-ce que le Racing peut au moins jouer, on va dire, le premier tiers, quoi? Parce qu'on a l'impression que le Racing là, actuellement est parti pour se battre, soit carrément pour le maintien, soit pour exister dans le ventre mou. Donc quel est votre avis là-dessus, Jess?
Moi là je suis pas très optimiste au jour d'aujourd'hui. Je pense vraiment qu'on jouera pas la montée. J'espère qu'on va en mentir, mais je pense qu'on va... On descendra pas, on se battra pas pour pas descendre, mais on va ventre mou. Je pense qu'on sera pas dans le cap premier à jouer, à arracher la montée, ça sera pas du tout cette saison. Je pense que... J'ai aucun espoir de monter, c'est ventre mou.
Ventre mou, d'accord. Peut-être plus optimisme, Mediasoc, notre optimiste du jour.
Pas tellement, non. Moi, j'ai déjà j'ai déjà oublié le fait que le Racing pouvait monter cette année, a priori. Il n'y a pas eu assez de renforts ou pas assez de qualité dans l'équipe pour monter, à moins que vraiment les autres équipes ne gagnent pas souvent, quoi. S'il y a un classement avec 5-6 équipes pour la montée, peut-être que le Racing sera là, mais je pense pas que l'objectif cette année c'est de monter, surtout avec les turbulences qu'on a eues ces derniers mois. Moi je suis plus dans. Moi, j'attends plus le Racing comme s'éloignant de la zone rouge, évidemment, quoi. Et en jouant une place peut-être entre la 5e et la 10e place, parce que la qualité de l'équipe elle est pas au niveau de la montée, quoi. Il faut être honnête. Je pense que c'est une équipe qui peut se battre avec des équipes comme Sedan, Tours, une sorte de deuxième partie des tableaux par rapport aux équipes qui vont monter, quoi.
Ratman.
C'est vrai que tout laisse à être assez pessimiste. Après, la série assez négative qu'on est en train de faire, c'est-à-dire 5 matchs sans victoire.
5 matchs sans victoire plus.
On en a fait l'an dernier. Je crois qu'on a dû faire des séries aussi noires, sauf que c'était en milieu de saison. Alors heureusement, on avait gagné 5 matchs d'affilée en début de saison, du coup on était quand même toujours au contact des meilleures équipes. Peut-être qu'en fait, le Racing est une. On va positiver, soyons fous. Peut-être qu'en fait c'est quand même une bonne équipe, sauf qu'elle a juste sa série noire maintenant en début de championnat. Et d'ici le mois de septembre, on peut rêver. Que ça s'enclenche, on sait jamais. Parce que bon, sur le papier, c'est pas non plus la 18e équipe de Ligue 2. Donc moi je me prends à rêver parfois que en fait c'est juste une mauvaise série et que peut-être qu'on va enchaîner 5-6 victoires. C'est vrai que c'est un peu la méthode couée là ce que je suis en train de faire, j'y crois pas.
D'accord.
J'essaie de me m'auto-convaincre.
Déjà une victoire, ça serait bien. Ouais.
Alors, on va essayer de battre le record, mais en D2, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait 19 matchs sans victoire, c'était en 2005-2006. Je crois, ou en 2004-2005. Quand on avait gagné contre à Nancy avec un pénalty obtenu par grâce à Guimandia.
Une jambe cassée, non ?
Une jambe c'est de Rof qui avait cassé une jambe à un ancien.
Adelton,
qui avait arrêté sa carrière à cause d'Yves de Rof.
Pour gagner, il faut casser une jambe.
Et donc là, on avait mis, je crois, 17 ou 19 matchs. Donc là, je sais pas, peut-être on va essayer de faire tous les records qu'on a déjà fait en D1, en D2, quoi. Enfin, je sais pas trop.
Je pense que Guy a déjà battu le record de 1 but par match, là. C'est 6 matchs
d'affilée. On a 6 matchs officiels d'affilée, on y a marqué.
On a déjà un record, donc après.
La Grèce qui a battu un autre record, quoi.
Un match de championnat, voilà.
Non, c'était pas Gamerich qui avait le record en faisant une semaine ou quelque chose comme ça, non, la tête de l'équipe. Ouais. Il y avait un entraîneur comme ça qui
aurait demandé à Philippe, mais il est.
Ouais, c'est notre historien, Philippe, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais moi j'ai une question très 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 claire là, à vous poser, parce que bon, vous parlez de la montée, là, c'est de tirer le Racing vers le haut dans les commentaires, mais est-ce que le Racing peut descendre en national? Est-ce que c'est possible?
Non.
Jess, non?
Ah non, c'est pas possible. Vraiment, j'y crois pas et ça n'arrivera pas. Non, on va pas tomber en national. On n'est peut-être pas bon, mais on n'est pas si mauvais. Enfin, on n'est pas. Je pense qu'on tombera pas en national. Impossible.
D'accord. Raconte.
Il faut tout envisager. Et donc c'est possible.
C'est possible.
D'ailleurs, j'ai ouvert un peu par provocation j'ai créé le topic le Racing fonce-t-il vers le national. en croyant un peu faire ça par provocation, finalement, pas tant que ça. Donc je pense que c'est possible. Hein. Il y a d'autres années on croyait que c'était impossible qu'on descende en D2 déjà.
Ça fait longtemps.
Voilà, il y a.
Ça fait très longtemps qu'on.
Bah oui, mais là, 3 points en 5 matchs, on est dans la moyenne d'un club qui va dans la charrette. Hein, donc on sait jamais, hein, la mayonnaise va peut-être jamais prendre et on va rester bloqué à faire des petits matchs nuls de temps en temps. Donc, moi j'y crois, c'est possible.
Mediasoc.
Fondamentalement, être déçu du Racing, c'est une constante, c'est pas un cas particulier. Donc on peut tout envisager, malheureusement. La déception fait partie du club d'une certaine manière. Non, honnêtement, si la situation de crise continue, si on ne sait pas trop où on va, si on ne sait pas qui est le dirigeant, si on ne sait pas qui est l'entraîneur, si ça continue toute la saison, le national c'est pour demain, quoi. Mais si ça se calme, si la situation revient un peu plus saine, si les joueurs donnent un peu plus d'eux et l'entraîneur organise mieux les tactiques, moi je vois pas comment ils pourraient descendre.
En tout cas, du côté de Karlsruhe, le voisin, le frère donc d'Outre-Rhin, était descendu en national. Hein, donc c'était un petit peu, il y a un peu un destin pareil en ce moment, dans le sens où les deux clubs sont descendus, enfin, sont en D2 actuellement.
Mais pourquoi ils sont descendus?
Karlsruhe s'est fait latter.
Et Karlsruhe s'est fait latter 4-0 à domicile contre Saint-Pauli. Donc il y avait quelques Strasbourgeois, une poignée de Strasbourgeois, dont Fremen Bleu et Guigas qui étaient allés voir le match. Donc Karlsruhe, Saint-Pauli, de 18h à 20h, qui sont venus en catastrophe pour voir le match quand même à la Méno. Et c'est vrai que là, il y a aussi une équipe qui descend donc de Bundesliga 1 en Bundesliga 2 qui est en difficulté, qui était déjà descendu en national. Enfin bon, c'est chose possible quoi, c'est des équipes phares qui parfois connaissent carrément un décrochage. Pour Jess, ça n'arrivera pas.
Il y a des exemples, bon, alors des clubs peut-être moins prestigieux, mais Cannes, ils y sont toujours. Il y a des grandes villes qui y sont, et c'est pas parce qu'on est nous, avec notre, parce qu'on est un club mythique qu'on peut pas y aller.
Bon, en tout cas, voilà, c'est okay, deux chroniqueurs qui envisagent ça.
Et toi, t'en penses quoi?
Moi, je pense que je suis un peu entre les deux. Enfin, j'ai un peu comme Jess, pour moi, ça va pas arriver parce que c'est pas possible. Mais d'un autre côté, c'est on se demande, quoi, on se pose des questions parce que autant le Racing en finissant quatrième la saison dernière n'a jamais été quasiment si bas de son histoire, quoi. En finissant quatrième, parce que des fois ils n'étaient pas montés dans les années 80-90, là c'était pour une question de barrage, quoi. C'était en terminant deuxième ou en terminant troisième. Je sais pas si une saison était terminée, si on a terminé septième ou huitième, je crois pas. Hein. Il me semble qu'on a toujours discuté. Enfin bref, là, les historiens et les spécialistes du moindre détail de l'histoire du Racing sont pas là pour le dire, mais. Enfin, on est quand même là actuellement dans un gouffre historique. Hein. C'est quand même
ça, c'est sûr, ça c'est certain.
Historique, et c'est ça qui est vraiment très inquiétant. C'est
Je pense qu'en fait, comme l'année dernière, avec les 5 victoires consécutives au début de la saison, on s'est dit voilà, tout repart, tout va bien. Et en fait, on n'est pas monté. Et là, je pense pas qu'il faille voir aussi loin. En fait, la situation du Racing, faut serrer les fesses en fait en attendant que ça revienne, quoi.
Bon, en tout cas, on va quand même être optimiste, effectivement penser que ça reviendra, qu'on descendra pas comme DJ, c'est que... et pourquoi pas, je sais pas, pourquoi on ferait pas une fin à un record positif, genre, je sais pas, 15 victoires consécutives, 15
c'est
victoires,
possible.
Voilà, 15, et les 10 qui marquent, un but comme ça jusqu'à la fin de la saison, les 38 buts, ce serait... Le Racing est un club mythique et on va rester mythique, c'est tout, voilà, point, fin de la discussion, fin de débat là-dessus, on passe. Voilà, peut-être au point à tout ce qui conditionne justement ce qui se passe sur le terrain, donc les coulisses. Voilà, Ginesté donc qui revient finalement après s'être mis un peu en retrait, en nommant bon Herzog comme président délégué. Voilà, qu'est-ce que alors, sur le côté coulisses sur Ginesté peut-être sur l'actionnaire majoritaire qui est là, qui semble vouloir vendre mais qui a pas l'air de vraiment trouver preneur pour ses parts. Est-ce que vous pensez déjà que ça conditionne radicalement ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que vous pensez que le retour de Ginesté soit une que Herzog président délégué soit une bonne chose et que Ginesté qui revient un petit peu soit une, est-ce que c'est une bonne chose, quoi? Qu'est-ce que vous dites, Rachman?
Alors, moi je suis un peu désabusé par tout ce qui se passe. Ginesté, j'ai rien contre lui fondamentalement, mais là moi je commence à être un peu pris de lassitude parce que bon bah ça fait un petit bout de temps qu'il est là et ça marche toujours pas, donc pourquoi continuer? Mais d'un autre côté, si on continue pas avec lui, y a qui à la place? Bon, personne. Donc on est un peu dans l'impasse. Alors est-ce que ça conditionne sur est-ce que ce qui se passe en coulisses a une influence sur ce qui se passe sur le terrain? Oui. Parce que en coulisses, il n'y a plus de fric, c'est le bordel. Donc s'il n'y a pas de pognon, bon, on a des joueurs nuls, des joueurs pourris, et puis donc forcément, on a des résultats de merde. Voilà, mais donc là, moi, maintenant, je suis désabusé parce que je vois pas de solution. Quoi. Donc là, on repart avec les mêmes, c'est le Ginerzog, comme on dit.
Ginerzog.
Là, c'est Herzog qui va être un peu plus sur le devant de la scène, mais ça va rien changer, hein, ça sera... Je crois que Ginesté, j'ai l'impression que lui, il a plus trop la foi. Apparemment, je pense que le niveau du moral, il est aussi un peu atteint. Donc voilà, je sais pas.
Est-ce que tu sais, toi, Mediaset?
Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que la situation redevienne saine. Il faut que ça se calme, qu'on dise, il faut que ça arrête de tirer dans tous les coins.
Donc ça s'est calmé, non?
Là, ça s'est calmé.
Oui.
Depuis...
Donc c'est depuis une semaine ou deux.
Voilà. Depuis... Enfin, disons que je vois... Disons, la situation, c'est un peu... On ferme la parenthèse juin-juillet 2009, quoi. On revient à la situation précédente. Je pense que ça... faut absolument que ça se calme. Donc
ouais, après... Mais, tu dis on revient à la situation précédente, c'est pas très rassurant quand on voit ce que la situation précédente a donné. Voilà, mais dès que j'y ai... Enfin, depuis que j'y ai...
C'est quatrième à un but de la montée, tu vois.
Oui, oui, enfin...
Là, on est 18ème, quoi.
Là, on revient à ça avec moins d'argent et des hommes sans doute plus usés. Et qui y croient moins. C'est difficile de se dire que ça va marcher.
Jess, sur Ginesté, sur le bordel en coulisses.
Jess, c'est ridicule. C'est ridicule et c'était pas forcément le bon moment pour que ça pète. Parce que voilà, sportivement, je pense aussi que ça a forcément joué sur ce qui se passe sur le terrain depuis le début de saison. Sur Ginesté, je sais pas vraiment comment c'est. Il veut vendre, mais il n'y arrive pas, comme a dit Antoine, donc on ne voit pas trop où tout ça peut mener. Herzog, président délégué, je n'ai pas d'avis non plus, je ne sais pas trop ce que ça peut donner.
Toi, tu résumes un peu la vie désabusée du supporter qui nous caractérise tous, c'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement.
Bah non, on ne sait pas.
On est là, on ne sait pas.
On ne sait pas, non.
C'est quand même c'est le vide intersidéral, c'est ça qui est grave. Quoi.
C'est pour ça que j'avais eu une petite note d'espoir, mais... avec l'histoire de Jack Higgins, même si c'est un charlot, même si... je m'étais dit au moins c'est quelqu'un d'autre qui va tenter, et peut-être que avec peut-être d'autres moyens, une autre méthode, d'autres idées. Mais bon, apparemment c'est que du vent cette histoire, donc c'est un cache-carbis, semble-t-il. Donc en fait, y a rien, donc on va continuer avec les mêmes, et puis... on ne change pas une équipe qui perd.
Ouais, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est quand même... Ginesté, comme tu dis, à la base, mon avis, c'est que... J'ai rien contre lui, quoi. C'est-à-dire, c'est un président.
Non, mais il avait sûrement de bonnes intentions et tout ce qu'on veut, mais.
Sans doute, mais enfin bon, à la base, peut-être des bonnes intentions, peut-être voilà. Mais quand même, depuis qu'il a pris la présidence, c'est quand même une succession d'incohérences et d'échecs que tu pourrais quand même pointer. C'est-à-dire, alors il vire Papin qui fait monter le Racing en D1. Il maintient effectivement Furlan qui fait descendre le Racing, il maintient sa confiance et au bout du compte ça pète comme si l'histoire du deal Furlan Ginesté, comme quoi on a bien vu que c'était c'était du vent finalement, que c'était pas du tout fondé, que c'était pas réaliste, que c'était que le mec a quand même réclamé sa indemnité, donc on se demande comment un mec, un président de club professionnel se fasse berner comme ça, c'est quand même incroyable, quoi. Il y a eu l'histoire de l'Eurostadium aussi, j'ai l'impression qu'on a fantasmé pendant un an sur une image de synthèse, quoi. Pour bout du compte, rien, quoi. Voilà, donc
il y a l'épisode Specht où il délègue avec malheur la présidence, enfin, pour ajouter le mauvais choix de Ginesté.
Ouais, ah oui, Specht, oui.
C'était pas très heureux.
Specht, sans doute pas la carrure d'un président. Voilà. Après, il y a eu la tension avec Gilbert Grèce. Après, chacun choisira son camp. Moi, j'ai choisi le mien, comme vous savez sans doute. peut-être parler de Gilbert Grèce et de l'entraîneur dans quelques instants, de Pascal Germain, etc. Mais là, Ginesté, il faut quand même dire que le bilan, il y a quand même des échecs à répétition. Et ça me paraît... on a atteint un point de non-retour et je... perçoit pas une perspective quelconque d'amélioration avec Ginesté au Racing, quoi. Alors après que les personnes pour prendre les parts, c'est une autre chose, mais avec Ginesté, pour moi, c'est même pas le mur, c'est le gouffre, quoi. Là, c'est peut-être le national justement qui se profile, quoi.
Non, par rapport à Ginesté, on peut se poser des questions sur l'actionnariat de Strasbourg. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le réservoir s'est vidé, c'est-à-dire que ceux qui sont actionnaires en ce moment, il n'y a pas vraiment beaucoup plus de monde qui pourrait reprendre le club. Donc au sein des actionnaires, il n'y a pas vraiment non plus de volonté de reprendre des parts, d'augmenter le rapport de force par rapport à Ginesté. Donc je vois pas, mis à part une solution exotique, mais est-ce qu'on veut vraiment une solution exotique aux racines, quoi, un repreneur saoudien, ou japonais, ou je ne sais quoi, brésilien, ukrainien,
pire, lorrain.
Ouais, quand même pas, hein. faut quand même pas déconner. Là.
Ah mais là on y croit plus, enfin moi j'y crois plus, parce que Ginesté, je pense que c'est un gars de bonne volonté, Mais à chaque croisement, il a toujours pris le mauvais chemin. Enfin, c'est l'impression que j'ai, sauf sur des points assez secondaires. Et
pour moi, il faut tourner...
Il se trompe. C'est assez ahurissant d'avoir la malchance à chaque fois de choisir la mauvaise solution. C'est un peu comme si, on jouait à pile ou face, et que à chaque fois on choisissait le mauvais choix quand sur 10 jets de suite. Ça me semble.
Pour moi, le Racing ne peut plus avancer avec Ginesté au club, quoi. Alors après, si Ginesté se casse demain, tout le monde a l'air de penser c'est la catastrophe, il n'y a plus de sous, tout ça. Alors quitte à ce qu'on souffre le martyr, il faut pour moi que Ginesté se casse au plus vite et qu'on puisse tourner la page, quoi. Après, si ça se trouve, on tombera en national, je ne sais pas, mais on ne peut pas continuer comme ça avec de toute façon quelqu'un qui est là sans être là, qui a envie d'être là sans ayant envie de se casser. Enfin, c'est une situation complètement malsaine et je perçois pas de. Alors toi, t'as l'air de penser, Mediasoc, que ça s'est calmé un peu en coulisses depuis 2 semaines, etc. Mais pour moi, on continue d'être assis sur une poudrière et c'est certainement pas une situation saine pour l'avenir. Donc là, il y a quelque chose à purger pour moi et qu'il faut le faire au plus vite, quoi.
Sur la question des sous, s'il y a un départ de Ginesté, le principal perdant, c'est Ginesté, parce qu'il revendra en perte ses parts. Donc après, le reste, le budget, il est là, Strasbourg, voilà.
Donc il faudrait que Ginesté assume ses échecs, quoi, finalement.
Bah, s'il veut remettre en cause, je sais pas, 20 ans d'entrepreneuriat qu'il a fait pour aller jusqu'à là où il est, s'il remet ça en cause et s'il se dit, il repart à zéro, bon, franchement, en termes de... Si moi j'étais entrepreneur, ce que je voudrais être peut-être un jour, je me vois mal perdre des millions d'euros sur un club. Voilà. Moi j'attendrais que ça se passe, qu'il y ait un vrai repreneur, et voilà, après, d'être un peu plus discret comme il veut le faire. Voilà, s'il veut perdre plusieurs millions, il peut partir. Mais franchement, je vois pas comment ça peut être possible. Mais c'est lui le principal perdant s'il part.
Ça, oui. De toute façon, après, pour l'instant, c'est nous, nous sommes les principaux perdants, faut quand même le souligner, le rappeler, et c'est les supporters, là, qui sont en train d'en chier un maximum. Donc, avis à ceux qui ont peut-être les responsabilités, avis à ces gens-là, peut-être d'en tirer les conséquences, hein. Enfin, bref. Peut-être passer, parce que l'heure tourne, on va peut-être passer à peut-être un petit débat sur l'entraîneur, hein, on va commencer par revenir, parce qu'on n'a pas eu vos avis, c'était un débat très passionné, hein, c'est quand même un débat qui a enflammé les supporters sur le Stoub, dans la presse, etc. aussi, c'est alors le Gilbert Gress, donc l'éviction de Gilbert Gress. Certains étaient pour, certains étaient contre, certains pensaient que Gilbert Gress avait dépassé les bornes, certains pensaient plutôt qu'il avait fait ce qu'il fallait en exprimant des choses de façon radicale, mais au moins en étant clair. Alors juste un petit tour de table sur Gilbert Gress, son départ, son licenciement, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Jess?
Je pense que de toute façon, s'il était resté, la saison n'aurait pas été plus bonne pour autant. Je suis pas persuadé qu'il aurait réussi à faire quelque chose avec cette équipe. Donc voilà, moi son départ m'attristait pas plus que ça. De toute façon, voilà, il l'a voulu, hein. C'est sûr, dans la presse, lui-même se devait sauter son poste d'entraîneur. Donc voilà, je ne regrette pas plus que ça, Gilbert.
D'accord. Merci pour cet avis. Jess, Mediasoc.
En fait, moi, j'ai tendance à pas du tout regretter Gilbert Gress. Bah, principalement parce que, pour moi, c'est un poseur de bombes médiatiques, en fait. Il préfère se faire des amis chez les journalistes et pas chez les joueurs. Disons qu'il implique, je pense qu'il a son petit, ses courtisans journalistes qui l'écoutent tous les jours après l'entraînement et les accueillent dans son bureau. Il y a des vidéos comme ça sur le net de journaux qui vont le voir. Donc il se livre complètement. Mais est-ce que vraiment il a fait passer des messages à ses joueurs? C'est-à-dire que c'est peut-être avec ses joueurs qu'il faut qu'il discute et qu'il évite de balancer des choses dans la presse. Donc moi ce qui m'a étonné, c'est voilà son côté super médiatique, en fait. C'est le côté voilà, on fait de la com, on essaye de donner un état d'esprit aux spectateurs, et voilà, on se dit le Racing va devenir grand parce qu'il y a une sorte de règle morale, en fait, je dois avoir des règles pour vraiment progresser et pour faire du beau jeu, etc. Et c'est de la com, quoi. Ça reste de la com. Pour moi, c'est un peu comme Sarkozy. Il fait de la com, mais les faits montrent totalement l'inverse. Ce qui m'étonne, juste une question pour,
Pablo,
c'est est-ce que en 79, il était déjà comme ça? Est-ce que vraiment il s'est basé?
J'étais pas né en 79, moi.
Non, mais par rapport à ce que tu, il fonctionnait pas comme ça.
Tu parles de com, tu crois qu'en 79, la com, justement, journalistique, médiatique était analogue à celle qu'on a actuellement. Je pense que, à l'époque, de toute façon, on pouvait pas se servir des mêmes outils qu'actuellement, en termes de communication, et la manière pour un entraîneur d'aborder les rapports avec le joueur, de toute façon, était différente. Et moi, ce qui me choque, je vais pas relancer le débat sur Gilles Bergès, mais j'ai l'impression que c'est à nouveau les joueurs qui ont repris le pouvoir, c'est-à-dire que les joueurs ont peut-être pas accepté, enfin, certains ont pourtant bien parlé hein, de Gilles Bergès. Je pense à Magaï Gay qui avait quand même exprimer une envie à Gilles Bergès de progresser, et c'est pas un hasard non plus si c'est lui qui marque les deux buts hein, du Racing sous Gilles Bergès à Istres et contre Châteauroux, quoi. Donc il y a ces nouveaux joueurs qui ont pris le pouvoir, on a l'impression que c'est de nouveau reparti comme avant, alors qu'il y a peut-être une perspective de changement avec justement comme dit des valeurs de rigueur, de discipline qu'il faut, quoi.
Ces valeurs auraient pu être, ça aurait pu passer avec les joueurs s'il avait pris le temps, s'il n'avait pas
décidé. Si on avait laissé le temps.
Non. Grèce, le lendemain du premier jour d'entraînement, Grèce, il descend les joueurs dans la presse. Et ça, on peut pas admettre, quoi. S'il essayait de passer ses idées au fur et à mesure pour la saison, tu vois, il essaye de faire progresser l'équipe au fur et à mesure. Moi, j'ai rien contre, tu vois, la rigueur, tout ça, c'est des valeurs fondamental peut-être dans le sport en général, mais pourquoi prendre la méthode de force, quoi? Pourquoi poser des bons? Il peut faire ça sur la durée, avec la durée, les transferts, il peut peut-être trouver des joueurs qui sont plus dans son état d'esprit. C'est pas, il va pas changer Gargourov, il va pas changer comme ça, tu vois, l'esprit. Il va peut-être changer des joueurs à certains moments, il prend des joueurs de valeur, de rigueur. Ça, il peut faire au fur et à mesure, mais pourquoi aller sur la méthode commando comme ça? Est-ce que qu'il avait un contrat?
Je pense que tu exagères parce que tu poses des bombes, descends des joueurs, je pense qu'il a été simplement critique. Comment est-ce qu'on est au courant, nous, en tant que supporters, quel est le vecteur de communication entre l'entraîneur et nous? Si ce n'est la presse, justement, comment est-ce qu'on sait ce qui se passe dans un groupe par rapport aux relations entraîneur-joueur si l'entraîneur ne s'exprime pas dans la presse? Pour moi, il a effectivement utilisé la presse, mais pour nous informer, pour qu'on sache quelque chose. Enfin, il faut arrêter. Sous Furlan, j'ai l'impression, et même les entraîneurs d'avant, c'était plus l'opacité, c'était plus des déclarations comme ça, ésotériques, où on pouvait interpréter ce qu'on voulait. Avec Gilles Bergès, certes, t'avais un avis musclé, tranché, mais au moins on savait ce que le mec pensait de ses joueurs. Après on peut pas reprendre tout le débat, on va peut-être soulever tout le monde avec ça, mais peut-être Rachmaninoff, ouais, sur Gilles Bergès.
Moi, mon avis, c'est que je vais pas le regretter non plus.
Je suis de nouveau seul. Seul contre tous.
Je pense qu'il est socialement incompétent, comme ça a été. Enfin, il a des problèmes pour travailler avec des gens au quotidien. Bah oui, bah c'était à 30 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il est. C'est pas possible. Donc il arrive avec ses gros sabots. Et voilà, pourquoi flinguer dans la presse nominativement des joueurs dès le deuxième jour où il est là? À la limite qu'ils disent dans la presse, ouais, j'en ai recadré certains, sans citer. Mais il a fait tout ce qu'il faut pour se mettre un groupe à dos. On pourrait faire un petit manuel comment se mettre des joueurs à dos. Gilles Bergès, il pourrait faire une super préface, il a fait tout ce qu'il faut, je pense, des méthodes qui sont. Peut-être elles étaient bonnes il y a 30 ans, mais après tout, en matière de. Enfin, ça évolue, hein. Mais au niveau de la préparation physique, on a découvert de nouvelles choses. La pédagogie, ça évolue. Les jeunes, c'est pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Il faut aussi en tenir compte. Alors oui, c'est peut-être le pouvoir des footballeurs, mais c'est comme ça. Il peut pas changer la société, peut pas révolutionner les jeunes, c'est comme ça. Donc, il est venu avec ses gros sabots. Aussi, d'un côté, je pense qu'il a pas eu de moyens, il s'en est rendu compte assez vite. On lui a peut-être un peu savonné la planche du côté de Ginesté, parce que je pense que Ginesté ne peut pas encadrer. Ça, c'est sans doute possible. Et du coup, il s'est dit, voyant que ça n'allait pas, hop, je vais me saborder. Et en essayant de me victimiser, Voilà, d'ailleurs, le match d'Istres, le coup de la Ligue, il a sûrement été lâché par les joueurs, ça c'est bon, des bruits. J'ai eu des bruits par le gens de l'Inter du club, par bon alors c'est des rumeurs, hein, mais comme quoi ça a été même quasiment délibéré de. Voilà. C'est vrai que s'il y a un match qu'on pouvait laisser filer, c'était bien ce match de Coupe de la Ligue pour montrer au coach qu'on emmerde. Voilà, donc c'est un énorme gâchis parce que. Et après, je pense que finalement, pourquoi il est venu, Gilbert Rest?
Finalement, Gilbert, il a fait un petit coup d'éclat. On a beaucoup parlé de lui en 2 mois. Il repart avec une belle petite indemnité.
Justement, Gilbert Rest, il n'a pas été choisi par conviction. Je pense qu'il a été choisi par économie, en fait. Parce qu'on a vu, on a appris son salaire quand il a été limogé.
C'était 10 000 par mois.
10 000 par mois, ce qui, j'aimerais bien gagner ça, mais pour un entraîneur de sa trempe, c'est presque une misère. Donc est-ce que finalement on n'a pas choisi pourquoi est-ce qu'il n'a pas été choisi avec autant d'enthousiasme par les dirigeants parce que justement c'était peut-être le mec le moins cher du marché on a dit oui c'est le retour du grand druide non ouais, c'est juste les gars ils ont fait les rapaces et ils se sont dit oula cool on a la figure légendaire qui revient pour Peanuts c'est cool. Et du coup,
on tombera pas d'accord de toute façon, voilà. Mais en tout cas, c'était intéressant d'avoir vos avis là-dessus. Peut-être un dernier mot sur Gilbert Gress,
Médiation. Non, je pensais, comme on discutait un peu de la stratégie de l'échec, comment échouer dans les relations sociales et tout ça, je pense que si Gress doit sortir un bouquin, il doit se mettre avec Ginesté et écrire cette stratégie de l'échec.
ça serait
punk, tu vois.
Là, ce serait intéressant. C'est une belle manière de conclure, parce que bon, voilà, c'est malgré tout, c'est un échec, hein, mais après, d'où vient l'échec, ça c'est peut-être la question fondamentale. Juste pour terminer, au niveau de l'entraîneur, Pascal Janin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est l'homme de la situation? Rapidement, Rachmaninov.
Je pense qu'il n'y a pas d'homme de la situation, c'est trop, voilà. Mais c'est pas mal. Après, c'est juste assez paradoxal de voir que c'est un mec dont on n'a pas voulu il y a 3 mois, qu'il avait posé sa candidature pour le poste d'entraîneur. Et finalement, c'est lui qui a cette place aujourd'hui. Donc c'est une situation ubuesque de plus, mais bon, on n'en est plus à une près.
Mediasoc.
Non, voilà, c'est aussi une situation par défaut, d'un point de vue économique, je pense, voilà. Après, il faut pas détruire non plus jamais tout de suite, quoi. Parce qu'il a un niveau d'entraîneur au niveau et le club, donc un bon club de Ligue 2, on va dire.
Jess ?
Je pense qu'il fera pas plus d'une saison, mais je pense que on le garde à son été, parce qu'il peut être très bien d'ailleurs, on n'en sait rien, on verra. Mais après tout ce qui s'est passé, c'était la solution la plus simple. Après l'élection du Bagas, donc à voir.
À voir. Donc alors on laisse les portes ouvertes. Je pense qu'il n'y a pas de poser la question de savoir si vous préfériez quelqu'un d'autre que Janin. Non.
Non.
C'est bien ce qui me semblait, donc je la pose pas. Enfin, j'ai quand même posé. Voilà, donc le débat sur l'entraîneur se termine là. Et donc on va essayer de terminer sous la barre des 1 heure. Avec pour conclure le jeu du Stoub, le retour du jeu du Stoub. Alors il n'y a pas de revue du Stoub, mais il y a le jeu du Stoub et il a été préparé gentiment et on en remercie chaleureusement par Mediasoc. Donc Mediasoc qui va faire le maître du jeu du Stoub et puis moi, Jess et Rachmaninov allons disputer la victoire. Donc on est dans les starting blocks, c'est parti, tu as la parole.
Alors, comme le Racing a joué contre Sedan, on va un peu parler de ces deux clubs et de certaines relations qu'ont ces deux clubs, entre les joueurs, les dirigeants, etc., les petites anecdotes. Donc, une dizaine de questions, certaines faciles, d'autres un peu plus difficiles. Alors, je commence.
Allez.
Qui prend les points?
Je note les points, j'ai le calepin, donc je note les points, je m'en rajouterai deux ou trois. Subrepticement, c'est parti.
Donc, pour la première question, en fait, on va chercher un joueur qui a joué autant à Sedan qu'à Strasbourg dans les années 70. Il a joué dans les années 70, il est très connu.
Ouais. Aussi.
Donc, il a marqué 20 buts pour le Racing Club de Strasbourg. Vous avez déjà peut-être une petite idée des
20 buts, années 70, 20 buts, je sais pas, Roland Wagner.
Non. Alors, Lundi suivant, il a été sélectionneur national d'un pays étranger à la France.
Togo ?
Non. Et il a participé à deux remontées du Racing pendant cette période.
Ivica Osim ?
Ivica Osim.
Bravo !
Jess, il avait sur vous la langue.
Exactement.
Jess qui était sur le point de le sortir, spécialiste des années 70.
Bien sûr,
Jess.
Alors
c'est plutôt années 60, pardon. Donc voilà, un point pour Paolo qui mène 1-0.
D'ailleurs, j'ai pas trop de nouvelles d'Ivica Osim, il a eu un accident cardiaque il y a 2 ans, je crois, et depuis on n'entend plus trop parler. Donc,
Non.
Espérons qu'il aille bien.
Si quelqu'un a des nouvelles, qu'il nous écrive. Alors deuxième question. Depuis 20 ans, combien de fois Strasbourg a battu Sedan, toutes compétitions confondues?
Une fois.
Une fois.
Une fois, 3-2 à la Méno.
Oui. Avec, c'était effectivement un point pour Pablo, c'était le 26 août 2000, donc c'était presque un anniversaire. Hein,
c'était la première victoire de la saison d'ailleurs, c'était le cinquième match aussi, ouais. Comme le match qu'on a disputé hier, on avait gagné à l'époque.
Et Conan sort de
sous Claude Leroy. Et Conan n'est pas là, et j'ai dû bosser. Hein,
t'auras pas besoin de t'ajouter subrepticement
des points.
Bon, attendez, le match n'est pas terminé.
Petite anecdote sur les similitudes, je me souviens aussi pas mal de ce match. Bon, j'étais à Bruxelles ce jour-là, il y avait aussi le Grand Prix de Belgique de Formule 1, comme ce week-end d'ailleurs. Donc le contexte était assez similaire, mais le résultat malheureusement n'était pas similaire.
Ouais, ben, t'es pas loin du 3-2, hein, si on avait planté un but dans les arrêts de jeu, là, rapidement, encore un deuxième dans les arrêts de jeu, on aurait été à 3-2. Quoi. Enfin bon, bref, on fait pas l'histoire. Troisième question.
Alors, la question se rapporte au même match. Dans ce match, qui était le gardien?
Eggyman.
Trop facile pour Paolo. 3-0.
Allez,
pour Paolo.
Allez, raconte-moi là. C'est facile d'habitude. Même Judd, d'habitude, tu sais tout.
Ah oui, bien sûr.
C'était pas Eggyman, c'était... Enfin, ça aurait pu être Superman, mais c'était Eggyman. Il a passé... Enfin,
le Superman du pauvre.
Alors, quatrième question. Sedan et Strasbourg ont des histoires de famille commune, on va dire, entre guillemets. Dans l'histoire plutôt récente, quel fils d'un ancien membre du staff strasbourgeois a évolué à Sedan?
Quel fils d'un...
Jarolim.
Exactement.
Ouais. Est-ce que tu as son prénom?
Karel.
Donc ça c'est le...
Ah, c'est le père.
C'est le père.
Le prénom, c'est... je sais plus le prénom. Mais,
on va donner le point à
Rachma, mais... C'est vrai.
On va préciser, parce qu'il y a des fois des confusions, c'était Lucas Jarolim qui a évolué à Sedan, et il y en a un dans le championnat allemand, un autre, Jarolim.
Mais je sais plus où il joue.
Donc il y a David Jarolim, en fait, qui joue à Hambourg. Tous les deux les fils de Karel Jarolim, qui était l'adjoint d'Azek, il me semble.
Ouais, voilà.
Et qui est l'entraîneur du Slavia de Prague en ce moment.
Voilà. Donc Rachma qui réduit l'écart. Donc on est à 3 pour Paolo, 1 pour Rachma et Jess qui est...
On ne précise pas.
Voilà. Allez Jess.
Cinquième question. Alors c'est un joueur commun à Sedan et à Strasbourg. C'est également dans les années 70, début des années 70, 1972-1975.
Ouais.
Donc il était à Sedan auparavant, il est venu à Strasbourg ensuite.
Alors,
il a quand même marqué un peu le club, enfin, c'est plus un nom très très connu, mais il a marqué 17 buts avec Strasbourg et il était ailier gauche du Racing.
Alors là,
je laisse un peu réfléchir, j'ai
d'autres questions. Est-ce qu'on a pas au joker téléphonique?
Je vais
appeler Conan. Hein.
17 buts, deuxième indice.
Alors, il est français, ouais. Il a joué avec Grèce, Dropsy, Duguay-Pérou, Guémoniche, qui avait déjà des noms connus à l'époque.
Ouais, ça m'aide pas. Je sais pas, pourquoi dire ça.
Moi je sèche.
Il fait partie de l'équipe qui a joué le match mythique Racing contre Brésil.
Je savais même pas qu'il y avait un match mythique Racing contre Brésil, moi.
Mais si, on l'a fait dans un quiz une fois qu'on avait posé la question.
Mais je crois que je me rappelle tout de tous les quiz.
C'était Roland Wagner qui avait marqué. C'est match.
C'est Roland Wagner, arrête.
Non, c'est pas Roland Wagner.
D'accord.
J'ai pas dit.
Français qui a
Donc un match où...
C'est quelqu'un qui est oublié, hein, qui a pas forcément...
Justement, s'il est oublié, je pense que...
Écoute, essaye de donner les initiales, tiens. Ouais.
Donne-moi. Les initiales, YR.
Ah ouais,
Yves.
Yves.
Non.
Yvan.
Yvan, oui.
Yvan, 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 Rocher, Yvan Rocher, Yvan Roger.
Yvan Rocher, non, c'est pas ça.
Yvan Rocher. Non, mais on va sécher.
Tu donnes la langue au chat. Ouais. C'est, en fait, quelqu'un qui a à peu près 65 ans aujourd'hui, qui s'appelle Yvan Roy.
Yvan Roy.
Voilà. Enchanté. C'était une anecdote... commune entre Sedan et Strasbourg, les rares joueurs qui ont joué dans les deux équipes, il y a peut-être une quinzaine de minutes.
Ben voilà, on a séché, voilà.
Ok. Alors, dans l'histoire de Sedan, il y avait un grand joueur, alors les années, je pense que ça devait être aussi dans ces années-là, années 70. Donc là, c'est une question un peu plus dure quand même.
Ah d'accord.
Ça promet.
Alors non. En gros, il n'y a pas beaucoup d'indices, mais disons, je pense que normalement vous devriez trouver. Donc, c'est pas quelqu'un qui est français, qui était international, qui a d'abord commencé, enfin qui a été formé à Sedan, qui a commencé sa carrière il y a un peu de 20 ans à Sedan, et qui a joué, qui a fait une belle carrière au PSG pendant 10 ans, il a marqué beaucoup de buts. Il a joué à Nice ensuite, à la fin de sa carrière. C'était un attaquant, un milieu offensif. Et c'est un grand nom du PSG, un grand nom de Sedan.
Un grand nom du PSG dans les années 70.
Ouais.
Ouais, et avec le Racing, rien à voir. Hein.
Non, c'est Sedan.
Ah ouais, ouais, d'accord, ouais. Bah, international, années 70, pas dans... je sais pas, moi...
Ah, les grands noms du PSG.
Ayodish.
Non.
Bah non, je suis con.
Plutôt Maghreb, je pense.
Majer.
Non.
Les initiales.
C'est MD.
MD. MD. Non, aucune idée. Là, j'avoue le prénom.
Mustapha.
Mustapha. Daleb.
Daleb, ouais, c'était ça. Bon, on peut pas donner.
Non, non, non.
Ouais. Si on donne, on va un demi.
À vous de voir. Un demi.
Bah, allez, on va relancer le match. Je donne le point et ça fait 3-2.
C'est genre quoi, il y avait aussi de très bons joueurs à Sedan.
Voilà, ouais. Restés, Comme Alex Di Rocco aussi.
Dans les Olivier Quin.
Olivier Quin, Mionnet. Toute cette période
Nicolas Sachi.
Nicolas Sachi, le dernier, ouais. Il y a une grande période de Sedan, là, récemment, là. Enfin, grande période.
Chou Sendiefi.
Chou Sendiefi, enfin,
bref. On va peut-être donner des réponses des prochaines questions.
Voilà.
On va
voir. Et là, on a
pour l'instant, pas, mais non. C'est pas mince.
Ah, bah, tu vois, c'est, ce que je connaissais. C'est pas loin, donc on en a raté un, et...
Bon, pour pas vous, justement, je vais enchaîner sur cette question parce que c'est ce que j'avais prévu un peu dur. Quelle est, dans l'histoire récente, il est toujours en activité, en Ligue 1. Et il va trouver un nouveau club bientôt. Donc je raconte la... Je dis la question, quel est le joueur qui est passé par deux grands clubs français à avoir commencé, il avait commencé sa carrière à Sedan.
Ah oui, ah, c'est Mbami.
Mbami.
Yes. Ouais. Yeah.
Donc il est passé à l'OM et au PSG. Et j'avais encore précisé qu'il était champion olympique, signé... en 2000, et il a une grande, il a des rapprochements avec Djibril Cissé sur certains points de vue vestimentaires et au niveau du look.
Voilà, bon, on ne précisera pas, par souci de bon goût. La suite.
La suite, donc, en fait, c'est une question sur le stade, peut-être que vous connaissez l'origine. En fait, d'où vient le nom du stade de Sedan? Donc c'est le stade Louis Dugouguez, et je veux savoir...
C'est pas c'est l'ancien maire de la ville non. qui est mort,
président du,
président du conseil régional, général.
Non, je pense pas.
Non.
Footballistiquement.
Ah, footballistiquement,
c'est pas président du club.
Non, c'était un entraîneur.
C'était un entraîneur.
Ouais.
Et il y a encore une autre particularité.
Un entraîneur.
Précisé.
Un entraîneur joueur.
Entraîneur-joueur, effectivement.
Jess qui marque Jess qui ouvre le score. Et oui, qui ouvre son compteur. Entraîneur-joueur, bonne réponse de Jess. Le point est pour Jess.
Donc en fait, c'était... il est arrivé au club après-guerre, en fait, c'était un avant-centre et en même temps un entraîneur. Quoi. Il a joué, il a entraîné pendant 5 ans et après il a entraîné pendant 25 ans.
On va être calé sur Sedan, plus que sur le Racing, au bout du compte.
On a déjà fait beaucoup de choses sur le Racing, donc c'était un peu dur de trouver un sujet. Et en fait, il a fait gagner Sedan, enfin il a fait gagner 2 Coupes de France à Sedan, notamment. Quoi.
D'accord.
C'est pas mal du tout, il mérite son nom sur le stade. Que ça ne devienne pas un stade avec un naming, avec un nom pittoresque du type stade des sangliers, ou quelque chose comme ça.
Ouais. Stade de l'allée.
Alors encore une question difficile, une question plus facile pour terminer.
Donc
on en est à 4 pour Paolo, 2 pour Rachma et 1 pour Jess.
Donc l'anecdote en fait que je vais dire est assez rare en fait par rapport à l'histoire de Sedan. Sedan a été en tête de la Ligue 1 5 journées consécutives. Premier indice, c'est pas récent.
Il faut dire la saison, c'est ça?
Voilà, il faudra dire la saison.
On pourrait citer toutes les dates.
À peu près, il faut voir un peu la période dont j'ai parlé un peu juste.
71, 72?
Non, c'est plus tôt. Alors c'était en fait à la suite de 9 victoires consécutives de Sedan en Ligue 1.
9 victoires consécutives.
C'est incroyable. Ouais. Et donc ils ont été en tête de la Division 1 à l'époque. Ils finissent 3e cette année-là. Et le Racing était en Ligue 1. Enfin en Division 1 à l'époque. Et c'était Monaco champion.
Il faut trouver l'année.
Donc faut trouver une année. Je vous dirai plus.
Bon, on va faire un ordre. Chacun qui dit une année. Bon, là, tu commences.
63.
Je peux pas dire plus. Là. Oui, c'est 63. Ils ont été.
Eh ben, le coup gagnant. Hein. Le coup gagnant, c'est Rachma qui marque.
Il fait encore.
Et qui revient à 4 à 3. Hein. Donc, ouais. Tu reviens. Tu me talonnes.
Il reste une question facile, c'est ça?
Il reste une question facile. Ah,
ouais. C'est la dernière question là.
Oui.
Donc là, tu peux égaliser, Jess qui peut éventuellement
sauver l'honneur.
M'arranger en marquant un point. Je peux aussi marquer le point, ça.
Alors, je pense que c'est plutôt facile, bon après on verra. Quel est l'ancien joueur de Sedan qui a voulu porter plainte contre Jean-Marc Furlan quand il était son entraîneur?
Ah, non, Montero.
Montero, effectivement.
Ah, bien.
Bravo.
Eh ben voilà, ben... Rachma qui égalise, voilà. Ça fait 4 partout, Montero, ouais, pourquoi il y avait...
Donc c'était en fait...
Il s'entraînait plus, il ne s'est plus entraîné, je crois.
Voilà, c'était à 3, donc Montero avait rallongé son contrat, c'était sa fin de carrière en fait, il avait 34-35 ans, donc il voulait faire une dernière saison à 3, et en fait au bout de quelques matchs, Furlan l'a mis de côté, l'a mis dans un groupe parallèle au club, et donc voilà, il a dû intervenir dans les médias ou quelque chose comme ça, et... ça n'a pas plu à Furlan, donc il a essayé de porter plainte, mais je crois que ça n'a pas eu de plus de suite que ça. Enfin, peut-être les auditeurs pourront nous confirmer. Mais,
c'est un bon joueur de foot, hein, Montero, quoi. C'était l'arrière, je crois, arrière gauche. Pour... Enfin, en tout cas, voilà, le quiz se termine. Merci pour l'avoir rédigé. Donc ça fait 4 pour moi, 4 pour Rachma et Jess qui a sauvé l'honneur grâce à l'entraîneur-joueur Louis Dugoguez. Donc voilà, l'émission touche à sa fin, peut-être un mot de la fin, donc c'est quoi le prochain match? Attendez, il va peut-être faire un concours de pronos, enfin, quoi que c'est dans longtemps.
C'est quoi déjà?
C'est Nantes. Ouais. Nantes, bon allez, un petit prono rapide sur Nantes, match très difficile lundi de septembre, là, après la trêve internationale. Voilà, Nantes-Strasbourg, un prono.
0-0.
0-0 pour...
Ouais, une défense, 11 en défense et... Le match du renouveau de la défense.
Une défense retrouvée. Voilà. Mediasoc.
J'ai envie de dire un match nul, oui. Ça serait un bon point de prix. C'est à l'extérieur.
À l'extérieur.
Donc ouais, ça sera un bon point de prix si ça se passe comme ça. Par contre, moi je crois pas au renouveau de la défense, donc je vais dire un 3-3.
3 partout, ouais. C'était pas loin du 4-3 quand on est perdu.
Oui, voilà, on n'est pas trop
loin. On parle pas de malheur.
Ouais, enfin, à Nantes, on perd tout le temps. Enfin, c'est un club. Oui. Moi, j'ai jamais.
71, je crois, d'après
ça. Pas souvenir d'une. On a fait match nul avec Drobny une fois qui marque de la tête il y a quelques années, en 89e minute. Mais on n'a jamais. Enfin, je n'ai pas souvenir d'une victoire à Nantes, moi, personnellement.
D'après le chou, je pense que c'est depuis 71 que le Racing n'a pas gagné.
Ouais, un truc comme ça. Ouais. Bah, ce serait sympa que ce soit cette saison, quoi. Jess!
Soyons fous, une victoire? La première de la saison, tu fais du bien contre un bon adversaire, pourquoi pas?
Combien de
score?
2-0.
2-0, ouais, pourquoi pas, ouais. Voilà, et puis moi je vais dire, je sais pas, j'ai envie de dire n'importe quoi, parce que c'est n'importe quoi, donc je vais dire,
8-6.
Voilà, je sais pas, 14-8, non, j'en sais rien, enfin, ouais, pourquoi pas un 2 partout, enfin, pour rester dans les gros scores, une défense de merde, mais quand même, des petits jeunes, voilà, Lady, Gay, qui marque, qui essaye de tirer comme ça l'équipe vers le haut. On verra, enfin, c'est pas encore, on a, pour l'instant, on a 15 jours de répit, avec le Racing, donc c'est pas plus mal.
Petit pronostic pour les matchs de l'équipe de France, peut-être.
Je sais pas ce qu'il y a comme match.
Je crois que c'est, Roumanie-Serbie, il me semble.
Ouais.
Enfin, c'est les matchs décisifs pour se qualifier, donc, est-ce qu'ils vont se planter,
Non, je pense pas, ils se planteront pas. Mais voilà.
Ouais. Bon, bah, moi, je pense qu'ils vont se planter, mais.
Enfin, j'ai bien peur que ça.
Ouais. Ouais. Et Jess qui.
Pas d'avis.
Un match nul. Ok, bah, mot de la fin, peut-être dernier souffle pour aujourd'hui, Rachma. Merci.
Un beau souffle,
Mediasoc, allez.
Non, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non, je pense qu'il faut attendre que ça passe, et je pense qu'on peut toujours continuer à soutenir le Racing en disant allez Racing.
Allez Racing, voilà. Vous, allez Racing, et Jess.
Il y aura forcément des jours meilleurs. Qui vont arriver bientôt, donc en attendant.
Tu ne t'en fais pas. Plus que ça. Si quand même.
Un peu,
ouais. Ouais, bah de toute façon, moi.
Mais ça ne peut pas être pire.
Là, je vais être original, je vais dire allez Racing, et puis c'est le mot de la fin.
Allez Racing!